Campagne, bonjour. Pour cette dernière porte d'entrée sur le département de Haute-Savoie, nous avons de bons retours de nos précédentes émissions. En janvier, je vous informais du projet de création d'une grande ferme associative à Domancy. Les objectifs allaient dans le sens d'une relocalisation d'une agriculture de proximité, avec l'envie de pérenniser un grand programme tourné vers le futur, qui comporterait également un axe pédagogique. La campagne de financement que nous avions soutenue est dorénavant bouclée, avec réussite, puisque la signature d'acquisition du domaine va se réaliser très prochainement. Je profite de cette bonne nouvelle pour vous inviter à la fête du printemps qui se tiendra sur ce site de cette ferme associative au pays du Mont-Blanc. Le 19 mai prochain, stand, concerts, scènes ouvertes, ateliers, espaces d'expression sont prévus tout au long de cette journée. Unefermepourtous.com pour l'adresse. Un phénomène rare, une entreprise d'aluminium reprise par ses salariés en coopérative fait appel à une association pour valoriser son patrimoine industriel vivant et ses savoir-faire. L'association s'appelle Autour des Forges de Cran. Elle est représentée par Yanis Sotti, premier invité, à lire en parallèle dans les pages numériques de la ville l'article d'Élise Coutenouillan. Et puis un objet singulier, l'écrevisse, espace commun de rencontre extraordinaire, vecteur d'idées à suivre. Fin de citation. L'écrevisse est à Métais, c'est un atelier de construction pour artisans, artistes conjugués à une boîte de projets citoyens. Charlotte Julien, résidente du lieu et membre de l'association L'Atelier 36, animatrice de l'espace, sera notre seconde invitée.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Yanis Sotti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission à l'association Autour des Forges de Cran. Il y a deux choses incroyables. D'abord, on a quelques exemples comme ça d'entreprises qui capotent parce que l'entreprise qui était connue sur votre commune de Cran-Chevrier, qui faisait partie du patrimoine industriel, appartenait au groupe Péchinet, était reprise par un fonds de pension américain qui n'a fait aucun investissement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu un redressement judiciaire. Donc la création d'une SCOP par un groupe d'employés, de salariés de cette entreprise. Mais surtout, c'est que la SCOP a voulu être soutenu par une association qui est la vôtre.
Tout à fait. L'association Autour de Forges de Cran a été souhaitée, vraiment, elle a été voulue par les porteurs de projets, parce qu'on appelle, nous, en interne, les associés. Ils souhaitaient qu'il y ait une association de soutien. Ils ont donné trois missions à l'association. La première, ça a été de porter le plan de formation. La deuxième, d'ouvrir l'usine à son bassin de vie. Et la troisième, d'organiser des événements culturels au sein de l'usine, avec la venue de publics externes à l'usine. Donc on part bien effectivement d'une volonté des gens en interne. Pourquoi? Simplement, vous l'avez dit, hein, parce qu'on est dans un contexte de SCOP et donc de gouvernance un peu différente.
La SCOP a pris le nom de Alpine Aluminium, puisque c'est son savoir-faire premier.
Tout à fait. On a pris le nom d'Alpine Aluminium, simplement parce que depuis 1907, sur ce site, on travaille à la transformation de l'aluminium et à la réalisation d'alliages spécifiques en aluminium.
Alors j'essaie de comprendre, autour des forges de Cran, donc pour l'association, la composition est surtout des habitants de la commune. Est-ce qu'il y a aussi des membres de la SCOP à l'intérieur de l'association?
Tout à fait. Très vite, hein, dès la première année, on a eu des ce qu'on appelle, comme je disais tout à l'heure, des associés, donc des propriétaires de leur usine, qui eux ont souhaité participer très activement. Nous, au sein du conseil d'administration, il y a trois sièges qui sont réservés à des associés et à des employés de l'usine.
Hélas, très fréquemment, les usines ferment. Il y a une friche industrielle qui trouve d'autres missions, qui est transformée sous le coup de bonne volonté de citoyens. Vous valorisez un patrimoine industriel vivant, c'est ça la particularité.
Ouais, c'est tout à fait ça. On a souhaité s'intéresser à cette industrie et à l'histoire de cette industrie bien avant son déclin. À travers la volonté des ouvriers qui était d'ouvrir l'usine à son bassin de vie, ben ça a été à la fois de montrer les savoir-faire, hein, que les gens se rendent compte que derrière ces grilles, il y a une activité, il y a des carnets de commandes, il y a des savoir-faire, mais en plus de pouvoir expliquer aux gens d'où viennent ces savoir-faire dans l'histoire, comment l'usine a été conçue, à quelle époque, par qui, qu'est-ce qu'on y faisait, comment ont été construits les bâtiments, pour quelle destination, et voilà.
Quelle est la situation financière de la SCOP actuellement, donc depuis sa reprise?
Donc aujourd'hui, on est dans une situation où l'usine a besoin de pouvoir trouver d'autres fonds d'investissement pour pouvoir remettre certaines parties de l'outil industriel vraiment à flot. simplement parce que, et vous l'avez aussi dit dans l'introduction, quand elle appartenait au fonds de pension américain, il faut bien avoir conscience que pendant 10 ans, il n'y a eu aucun investissement, ni sur, comme on le dit nous, ni sur les bonhommes, ni sur les machines, et qu'à un moment, la SCOP, elle paye de ce non-investissement qui a duré une dizaine d'années. Or, aujourd'hui, il faut trouver les leviers pour réinvestir dans cette usine, pour pouvoir maintenir un outil industriel qui, même s'il est ancien, nous permet aujourd'hui de répondre à des marchés qui sont relativement nouveaux en France. Je vous donne un exemple, le bardage d'immeubles en aluminium.
Oui. C'est rare, en tout cas, votre exemple en France, dans la mémoire des carnets, en tout cas tel que je l'entrevois, j'imagine assez mal d'autres cas d'associations travaillant de pair avec une entreprise qui est sur le mode renaissance, et ça relève quand même d'une forme d'intelligence collective, ça.
Et effectivement, vous notez un point fort, c'est que ce lien qui existe et cette cohabitation, plus que cohabitation, c'est une co-construction entre l'association et l'entreprise, oui, on affirme, c'est rare, et c'est le fait d'une seule chose, c'est que l'usine n'appartient plus à un groupe avec des décideurs qui peuvent être loin, qui peuvent être distanciés même de la vie de leur entreprise. Ici, les gens qui décident sont à l'intérieur de l'usine, et du coup, c'est eux qui ont vraiment souhaité ça. Vous savez, c'est une usine qui a eu un très très fort impact. Elle a été créée en 1816 par la famille Frère Jean, puis après dirigée par la famille Route-Bézieux. À ce moment-là, cette usine, on est dans une époque où il y a un vrai paternalisme, c'est-à-dire qu'il y a une attention aux gens et il y a une attention à la ville. L'idée de la SCOP, ça a été de se dire, il faut trouver les leviers pour réactiver ce lien à la ville. Et le levier qu'ils ont trouvé, c'est justement la mise en place de l'association autour des Forges de Cran.
Merci pour ce témoignage, cette action et votre enthousiasme qui s'entend, qui est communicatif, autourdesforges.fr pour la SCOP. L'adresse est alpinealuminium.com. Merci Yanis.
Et merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Autre bonne nouvelle, suite à des carnets, entre autres réalisés dans la métropole lyonnaise, nous avions rencontré Diane Dupré-Latour qui avançait un concept de restaurant de quartier pas cher, convivial, avec participation de volontaires à l'élaboration des repas et la mise en place des tables. Le concept avait été baptisé les petites cantines. Chaque convive était invité à adhérer à l'association. À prix libre. Les repas sont ensuite à prix libre, eux aussi. Les produits sont locaux, ils sont transformés par des cuisiniers professionnels, mais aussi par des voisins du quartier. La formule est donc participative et la réussite des petites cantines tient à la mixité des publics, précaires ou non. Chacun partage la même table dans un esprit de fête des voisins au quotidien. 3 restaurants ont ouvert depuis à Lyon, un autre à Lille en octobre 2018. Maintenant, c'est au tour d'Annecy avec son projet de création de petites cantines. Sauf qu'il manque le local à cette belle mission, et jusqu'à présent, l'association a testé le projet sous forme de cantine éphémère. Les besoins sont les suivants. Un local équipé d'une cuisine pouvant accueillir en moyenne 50 personnes. Par la même occasion, s'il y a des apports de vaisselle et de couverts, ils seront les bienvenus. Avec les exemples lyonnais, on peut dire en tout cas que le principe est très viable économiquement. Si vous voulez aider les petites cantines d'Annecy, vous allez trouver le lien à nos pages d'émission. Charlotte Julien, bonjour.
Bonjour.
Je vais vous demander de nombreuses explications, à commencer par l'association dont vous êtes membre, Atelier 36. 36, c'était voulu par quoi ?
Alors, l'Atelier 36, le numéro 36, c'est parce qu'en fait, on se situe tout simplement au 36 rue de l'Aérodrome, à Métay.
D'accord, dans le vieux Métay, vous êtes ?
Dans le vieux Métay, tout à fait.
Ouais. Et alors, vous êtes à l'origine d'un lieu qui devait être un lieu de production, que vous appelez l'écrevisse, vous allez nous donner des explications, mais qui a pris une autre envergure parce que les artistes ou artisans qui pouvaient intervenir dans les ateliers que vous proposez ont décidé d'être résidents aussi pour la plupart.
Alors, c'est en fait, avant tout, le projet voulait être vraiment quelque chose qui se partageait, qui était vraiment ouvert à tout le monde, sans vraiment d'appropriation du lieu. Mais il s'est avéré qu'en fait, on a un loyer à payer et on avait besoin d'avoir des rentrées d'argent assez fixes et régulières. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on a donc recherché des résidents qui pourraient être un peu une solidité financière pour ça, en fait.
Oui, ils sont nombreux. Alors, vous en faites partie, vous, en tant que, sérigraphe graphiste. Mais je vois Virginie, céramiste, Noémie, créatrice de bijoux, Kevin, designer, Quentin, menuisier, Alex aussi, qui est menuisier, Bruno, qui travaille le métal, Christian, électromécanicien. Ça en fait du monde chez vous.
Eh Bien oui, et puis ça ne fait que s'agrandir en effet. Aujourd'hui, on va dire qu'on est une petite dizaine de résidents, mais ça augmente en fait. Et puis c'est vrai qu'il y a les résidents, mais il y a toutes les personnes qui gravitent autour.
Mais au départ, vous vouliez mettre en commun les outils ?
Oui, et c'est toujours le cas en fait finalement. Simplement, qu'il y a pas mal d'outils qui sont vraiment pour tout le monde, et après il y a des outils qui sont vraiment plus spécialisés, plus professionnels, mais les outils sont quand même mis à disposition de tous en effet.
Oui, alors, il en faut des outils, parce que je vois, vous avez des peintres carrossiers et des menuisiers, c'est quand même pas le même outillage.
Pas du tout, non. Ouais, en effet, on commence à avoir pas mal d'outils pour le coup.
Il y a beaucoup d'originalité dans ce que vous proposez. Alors, il y a un espace commun que vous appelez les closeries. Et vous consacrez chaque mois une soirée au projet à suivre. Est-ce que vous pouvez nous donner des explications ?
Oui, et c'est un moment où on accueille des personnes qui souhaitent, selon leur disponibilité, leurs envies, d'accéder aux portes de l'écrevisse, au lieu, et chacun un peu à sa manière. Pour le coup, hier, on a rencontré 3 personnes qui souhaitaient être résidentes. Donc ça va être le cas, mais on a aussi eu par exemple Céline qui présentait des ateliers philo, qui ferait des petits ateliers ponctuels. Donc c'est vraiment dans des dimensions un petit peu différentes que chacun vient proposer ses envies, ses désirs.
Et vous créez des journées événements ou des soirées. Exemple, le 24 mai, que se passe-t-il ? Vous recevez le Fight Cult ?
Le Fight Cult, oui, en effet. Alors c'est une association qui s'appelle les Agitateurs de Rêve, qui est bien implantée à Annecy, qui a déjà une bonne notoriété, et donc qui va proposer un atelier, un débat de poésie en fait. Donc c'est un petit peu notre soirée culturelle.
Et donc Charlotte, la question de l'écrevisse qui s'écrit E-C-R-E-V-I-S, pour quelle raison ?
Alors, pour la petite histoire, en fait, on est le bâtiment est localisé en dessous d'un espace protégé où il y a une rivière, une petite rivière. Et en fait, dans cette rivière, il y a des écrevisses à pattes blanches qui sont une espèce protégée. Donc, on voulait un petit peu valoriser ça. Mais c'est aussi surtout qu'on a trouvé un acronyme à ce mot qui nous plaît beaucoup. Donc, l'écrevisse, ça s'écrit E-C-R-E-V-I-S et qui signifie « espace commun ». De rencontres extraordinaires, vecteur d'idées à suivre.
Bien joué, bien vu. Et ça correspond vraiment à l'esprit de ce lieu. Inauguration officielle le 31 mai et ouverture au public 1er et 2 juin.
Exactement, oui. On est en train de faire la programmation, on va faire plein de petites animations pour le public puisse accéder à tous les ateliers qu'on met en place ici, en fait.
Et voilà. Le site, c'est écrevisse.eco, si vous voulez suivre les activités de ce lieu assez particulier, j'avoue, à Mettay. Merci Charlotte.
Merci beaucoup et bienvenue à l'écrevisse si vous avez un petit moment.
Avant de nous séparer, des remerciements à Anne Yoro qui réalise les carnets, à Joël Levert qui leur donne du contenu, aux techniciens, techniciennes de France Inter qui leur donne du volume comme Loïc Frapsos aujourd'hui, Nicolas Stouffley, Yann Payret, c'est la dernière en Haute-Savoie, au carreau pour le jeu des 1000 euros.